Philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard, le 18 octobre 1990.
Petite question. Pouvez-vous préciser quelle est la nécessité exacte qui nous oblige à distinguer les sensibles propres et à saisir que l'objectivité de la connaissance se fonde sur eux. L'objectivité ultime, je mettrai les deux objectivités à partir de cette distinction-là. Les sciences ont une objectivité et la philosophie a son objectivité. Entre expérience, expérimentation. Alors, pourquoi ça? C'est de fait le jugement d'existence que nous allons voir qui va nous montrer cette distinction. Et c'est une constatation. Je touche quand je vois le lever de soleil, quand je touche la réalité, quand je serre la main à quelqu'un, je suis en contact direct, immédiat avec cette réalité. Et ce qui est saisi en premier lieu, c'est ce que le sens du toucher, le sens de la vue saisit. Il est sûr que je n'atteins jamais les sensibles propres sans les sensibles communs. Je ne peux pas les séparer. Je peux abstraire, mais je ne peux pas les séparer dans la réalité. Ils sont toujours liés. C'est pour ça que je peux croire en mesurant les sensibles communs, j'atteins les sensibles propres. C'est là la très grosse difficulté pour le savant. Et quand vous mesurez, par exemple, les appareils aujourd'hui, vous allez chez l'opticien voir exactement jusqu'où vous voyez. Vous mesurez à ce moment-là votre acuité visuelle. Vous pouvez remettre des verres pour corriger, augmenter votre vision. Mais on mesure les sensibles communs. Et ce que vous saisissez, ce que vous atteignez, c'est pas le sensible commun en premier lieu, c'est le sensible propre. Mais le sensible propre comme tel n'est mesurable que par le sensible commun. Quand vous essayez d'atteindre ce que c'est que la lumière, au point de vue physique, puisque vous avez étudié la lumière, et que vous saisissez la lumière avec la vision, avec l'œil, c'est tout à fait différent. Entendez le langage du peintre qui parle de la lumière et du physicien. C'est pas du tout la même chose. Et le peintre dira, le physicien, il connaît rien, il croit connaître en mettant une formule. Mais il ne connaît pas. La lumière est faite pour être vue, pas pour être mesurée. Elle est ce qui spécifie directement ma vue. Et à travers des couleurs diverses, tu vois, à travers des lumières diverses, je veux dire, j'atteindrai les couleurs. Donc, c'est ce qu'il y a d'ultime dans les sensations. Alors, je constate cela. Je constate qu'autre chose est saisir le mouvement par le toucher. Autre chose est saisir la qualité de ce mouvement. Les sensibles propres sont d'ordre de la qualité ultime. Tandis que les sensibles communs C'était comme expérience, c'est très intéressant à titre d'expérience. C'était avec le professeur Marois. On lui avait demandé, c'était à Poissy, d'exposer par sa science biologique ce qu'était la vie. Ils avaient un cours de 3 heures, extrêmement intéressant. Ce qu'est pour le biologiste la vie. Qu'est-ce que ça représente? Le vivant, la vie. Puis alors après, on m'a dit, maintenant, Père Philippe, dites ce que le philosophe dit sur la vie. J'étais très démuni. J'ai dit, ostensibles propres ont été rejetés à partir de Descartes. Et c'est très curieux. À Fribourg, il y avait un institut soviétologique. Et ça m'intéressait de temps en temps de parler avec ceux qui étaient tout le temps dans cette recherche, de voir tout ce que les soviets pouvaient éditer. Eh bien, il revenait sur la distinction des sensibles propres et des sensibles communs. En traitant de bourgeois, ceux qui regardaient les sensibles communs pour avoir la sécurité la plus absolue de la mesure. Et ce qui était le plus intéressant, c'était les sensibles propres d'Aristote. Il revenait à Aristote. C'était intéressant de voir que, revenant à Aristote, il redécouvrait les sensibles propres. Sans que, mais oui, il y a quelque chose que je ne peux pas, je suis obligé de reconnaître que mon contact avec la réalité extrinsèque à moi se fait toujours par les sensibles propres. Tout le temps. Si je les supprime, il y a quelque chose d'immédiat qui est supprimé. Je ne peux donc plus avoir un contact existentiel parfait. Il y a un intermédiaire, il y a l'instrument. L'instrument est possible pour les sensibles communs, il est impossible pour les sensibles propres. Parce que les sensibles propres, c'est quelque chose d'immédiat, c'est indivisible. Alors, c'est très important pour comprendre ce qu'est l'amour. Pourquoi l'amour supprime? L'amour veut supprimer les intermédiaires. Je ne peux pas mesurer l'amour. Pourquoi? Parce que c'est qualitatif. C'est purement qualitatif. C'est indivisible. Je peux mesurer les conditions, la manière d'aimer. Oui, mais pas l'amour comme tel. L'amour comme tel a quelque chose d'indivisible, d'unique. Oui, alors là, vous arrivez petit à petit à comprendre que dans la connaissance, il y a ce point de vue ultime du sensible propre de chaque sens. C'est pour ça qu'il y en a cinq. C'est une question auquel on doit se poser, pourquoi on a cinq sens? C'est une question de critique, ça. C'est jamais posé philosophiquement. Pourquoi y a-t-il cinq sens? Pourquoi la nécessité de ces cinq contacts avec le monde physique? Il y a une raison, c'est la sainte. Et pourquoi pour l'homme, le toucher est beaucoup plus fort que pour l'animal, alors que la vision, c'est possible que les animaux voient beaucoup plus loin, que l'aigle voit beaucoup mieux. Je n'ai pas été dans l'aigle quand ils élevaient, mais ils voient sûrement beaucoup mieux. Quand ils voient, et puis ils pondent sur un petit animal, c'est bon qu'ils voient quand même. Mais le toucher, c'est ça le sens de la vie, et c'est le plus développé dans l'homme. Alors pourquoi les cinq sens? Ben, ça c'est une question très intéressante. De voir que l'intelligence est liée au réel avec les cinq sens. C'est pour ça que mon intelligence se développe différemment qu'une intelligence purement intuitive. Parce qu'elle est toujours liée avec les cinq sens. Ça, on va le voir, on le verra, parce que c'est intéressant de réfléchir sur ces choses-là. Très simple. C'est la philosophie de l'homme, d'une intelligence incarnée. D'une intelligence qui se sert des sensations. Je ne peux pas m'abstraire de mes sensations. Au plan philosophique. Au plan mathématique, oui. Les mathématiques, oui. Mais pas la philo. Pourquoi? Parce que je suis toujours dépendant de ce que nous allons voir maintenant, le jugement d'existence. Je fais la philosophie de ce qui est, et non pas du possible. Je fais la philosophie de ce qui relève des sensibles propres, et non pas uniquement des sensibles communs. Mais les sensibles propres, me donnant les sensibles communs, c'est par les sensibles propres que je connais les sensibles communs. C'est par les sensibles propres. Mais je peux très bien ne pas m'en occuper, parce que c'est pas mesurable. Alors c'est ça qui fait une très grosse difficulté pour nous. Nous sommes imprégnés de la science. Notre culture est une culture scientifique. Ça c'est sûr. Alors par parce que nous sommes une culture scientifique, les sensibles propres sont immergés dans les sensibles communs. Il y en a beaucoup de peine de réhabiliter les sensibles propres et de les redécouvrir comme sensibles propres. On regarde que les sensibles communs. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment l'imagination, une image, forme une image, en fond, une représentation, c'est que les sensibles communs sont premiers dans l'imagination. Et les sensibles propres viennent après. Donc ils sont conditionnés par les sensibles propres. Ils sont conditionnés par les sensibles communs. Tandis que dans l'expérience immédiate, c'est l'inverse. C'est par les sensibles propres que je connais les sensibles communs. L'imagination renverse tout. Alors ça explique comment je peux m'abstraire des sensibles communs, des sensibles propres, et de regarder les sensibles communs. Les psychanalystes qui étudient les rêves constatent cela. Je répète ce qu'ils disent. Je crois que c'est vrai, quand on essaie de comprendre un tout petit peu, que quand le malade est très fatigué, il y a une répercussion sur l'imagination. Ça, c'est forcé. Quand vous êtes très fatigué, l'imagination est reine. Elle prend tout. Quand vous êtes bien éveillé à 4 heures du matin, alors à ce moment-là, vous êtes en plein contact avec les sensibles propres. Donc on se réveille plus tôt pour que les sensibles propres soient là. Quand vous êtes bien réveillé, la réalité est plus immédiate. Quand vous êtes fatigué, mais vous vous laissez emporter par l'imaginaire. Ça, c'est sûr. C'est un fait. Et dans l'imaginaire, qu'est-ce qui se passe? Le fruit de l'imagination, c'est les images. Les images de quelqu'un de fatigué n'ont plus que des sensibles communs. Les images de quelqu'un qui retrouve sa vitalité, les sensibles propres y apparaissent. C'est un baromètre très curieux du reste. Me disaient ces psychanalystes. Je crois qu'il y a quelque chose de juste. Alors, quand ils m'ont dit ça, je leur ai dit, c'est très curieux qu'au plan philosophique, si on étudie ce que représente l'image de la sensation, on voit qu'il y a inversion des sensibles communs des sensibles propres. Alors, évidemment, eux n'avaient jamais fait la distinction du sensible propre et du sensible commun. Parce qu'au point de vue psychologique, on n'en fait pas la distinction. C'est l'analyse philosophique qui peut seule faire la distinction. Parce qu'on distingue ce qui est et le comment. Et c'est l'interrogation du ce qui est et le comment qui me permet de faire cette distinction du sensible propre et du sensible commun. Qui, dans la réalité, sont toujours liés. Alors, bon, je dis ça maintenant, on y reviendra, parce que petit à petit, ce sont des distinctions philosophiques qu'on arrive à saisir. Mais au début, c'est pas commun du tout. De distinguer ce qui est. Qu'est-ce que c'est que cette réalité? Vous voyez, l'interrogation du ti, esti, et du pos, je traduis qu'est-ce, pour comment. Auguste Comte n'était pas un imbécile quand il disait que le positivisme faisait que le tiesti disparaît et on ne regarde plus que le comment. C'était quelqu'un qui était observateur à l'ONU et qui me disait que ça l'intéressait beaucoup de voir la différence des interrogations de l'Inde et du monde américain et européen. Le monde américain et européen ne pose que les comment. Et l'Inde pose le pourquoi. Selon Auguste Comte, le pourquoi, c'est le pourquoi de l'enfant. Et quand l'homme est adulte, il ne pose plus que les comment. Alors on va réhabiliter en philosophie le tiesti, le pourquoi. On redevient un enfant. On retrouve une intelligence native. distinction sensible propre et sensible commun. C'est une distinction que j'extrais dans un regard critique, en montrant que c'est quelque chose de tout à fait fondamental et que ça met du temps à bien la saisir. Je continue. Cette introduction à la philosophie première. Je vous disais hier que c'est quand même très important de voir comment, je dis le comment, je suis en critique, réflexion, comment toute ma philosophie repose sur l'expérience la plus forte qui soit, c'est-à-dire l'alliance de mon intelligence, de mon imagination aux sensations externes. Pourquoi cela? Parce que tous les autres commencements de la philosophie, alors on les a déjà notés, hein, tous les autres commencements, c'est-à-dire commencer par l'expérience interne, à la manière de Platon, de Plotin, commencer par l'inspiration, à la manière de Bergson et de Platon aussi. Commencer par le point de vue de la conscience. Commencer par le point de vue de l'opinion des autres. Je dis que tout ça présuppose l'expérience première, externe. Toutes sont relatives à celle-là. Facile à comprendre. Toutes sont relatives à celle-là. J'ai conscience parce qu'il y a eu une expérience avant. J'ai le contact d'abord avec le monde extérieur. C'est facile à voir le gosse. Le gosse, le premier petit transfert, qui est très intéressant à étudier parce que tous les autres sont commandés par celui-là, parce que c'est toujours l'ordre du comment, le transfert. C'est pas de l'ordre du pourquoi. Le gosse a faim. Il crie. Vous avez une petite sonnette à côté de vous, un petit jouet, qui fait du bruit. Il fait du bruit. Il s'arrête de crier. Qu'est-ce qu'il a? Il se fait un petit transfert. Mais l'expérience interne, il a faim. C'est une expérience interne d'avoir de faim. Non. C'est pas parce que c'est telle heure qu'on a faim. Et vous faites un bruit, une petite sonnette. Il s'arrête de crier et il entend. C'est plus fort. Ça ne dure pas très longtemps. Alors il faudra avoir un autre truc. Quelque chose de nouveau. Lumière. C'est surtout le son, du reste. Ou bien vous lui tapez dessus, tout doucement. Et la mère sait très bien ça, elle se secoue le petit gosse. Et quand elle secoue le petit gosse, mais il s'arrête de se crier. Il est pris par autre chose. Sensation externe. Qui attire son attention. On est comme ça, encore tout aussi. Quand vous faites le catéchisme à des petits gosses et qu'il y a un petit oiseau qui chante derrière, le petit gosse ne prie plus qu'à l'oiseau. On est comme ça aussi. On écoute un cours, il y a quelqu'un qui fait du bruit par derrière, tout le monde se retourne. Transfert. La première intention est brisée par un choc externe. C'est l'expérience externe qui est première et fondamentale à toute ma vie intellectuelle. Si le philosophe recherche ce qu'il y a de fondamental et d'ultime, puisqu'il veut toujours avoir une connaissance exhaustive autant qu'il le peut, toute philosophie veut ça. C'est pour ça que quand il a la conviction d'avoir une connaissance exhaustive, il parle d'un système. Le système est clos. Tout regarder. On croit connaître parfaitement quelqu'un. Je l'aime, donc je connais parfaitement. Mais non. Il est antérieur à l'amour que vous avez pour lui. Puisque c'est lui qui a suscité cet amour. Donc il est antérieur. Et donc il faut respecter cette connaissance externe qui ouvre tout le temps vers le réel. Quand le philosophe a compris ça, une des choses très importantes à comprendre, la relation qui existe entre 1 et 2. Est-ce que l'expérience interne est antérieure à la connaissance externe, à l'expérience externe? Je sais que c'est un problème très très important et que vous avez deux systèmes de philosophie là, le néoplatonisme et l'aristotélisme. C'est tout simplement dans l'ordre. Pour le néoplatonicien, la connaissance interne est première. Pour l'aristotélicien, la connaissance externe est première. Alors je dis pas faites vos choix, mais faites-le aussi. Il faut que ce soit pour vous une évidence. Et c'est pas commode, hein, parce que toute expérience interne implique, donc toute expérience externe implique une expérience interne. Mais toute expérience interne n'implique pas toujours l'expérience externe. Alors, c'est la première distinction. Ça, c'est le procédé aristotélicien qui est très juste. Quand il y a deux choses qui sont très proches, pour bien les discerner, prenez le procédé de l'extension. L'un enveloppe l'autre. L'autre est enveloppé. Et donc, celui qui est enveloppé est toujours second par rapport à celui qui enveloppe. Alors, quand vous regardez expérience interne, expérience externe, vous voyez ça. Toute expérience externe implique une expérience interne, c'est sûr. J'ai la sensation de toucher. Donc j'ai une expérience interne, j'ai conscience de toucher, interne. Mais l'expérience interne n'implique pas toujours l'expérience externe, le rêve. Vous vous réveillez, vous vous êtes réveillé ce matin. Qu'est-ce que vous avez vu le premier moment? Alors, si vous êtes très pieux, tout de suite, vous adorez. Mais avant même l'adoration, on se réveille. Et qu'est-ce que c'est que le réveil? C'est passer de l'expérience interne du rêve à l'expérience externe. Ah oui, c'est l'heure. Qu'est-ce qui fait le réveil? Il vous fait passer à l'expérience externe. Le gardien de l'expérience externe, le réveil. Parce qu'il vous oblige de sortir de vos rêves merveilleux. On était si bien. Des gros rêves. Ah, tout de suite, ça va recommencer. On se remet dans la vie commune avec l'expérience externe. L'expérience externe. Je suis seul. Personne ne veut. Je suis seul. J'ai mon monde à moi. Et ce monde à moi, comment vous l'avez construit? Grâce au monde externe. L'expérience externe est première génétiquement. Et l'expérience externe est première aussi selon l'ordre de perfection. Parce que l'expérience externe, nous allons le voir, nous met en contact avec ce qui est. Tandis que l'expérience interne vous met en contact avec l'intentionnalité. Alors, je retrouve parallèlement à cette distinction, c'est parce qu'elle est capitale, c'est pour ça qu'il faut la voir, il faut avoir conscience de ça. L'expérience externe me met en contact avec ce qui est. L'expérience interne me met en contact avec l'intentionnalité. Le vécu. Mon vécu. remis très en valeur. Depuis Lucerne, c'est Brentano qui a mis ça en valeur. Et l'intentionnalité est très vieille, elle vient d'Aristote. C'est une distinction aristotélicienne entre ce qui est l'intentionnalité. Alors elle est remise en valeur aujourd'hui. C'est intéressant ce point de vue-là. On met entre parenthèses ce qui est pour ne regarder que l'intentionnalité, le vécu. Alors que nous faisons l'inverse. Nous regardons ce qui est en premier lieu pour comprendre le vécu, pour comprendre l'intentionnalité. Je vous dis, c'est tout le temps comme ça, n'est-ce pas ? C'est la question de l'ordre, de la priorité, de ce qui est premier et ce qui est second. Si vous confondez cet ordre-là, plus. Et là, nous avons les deux grands courants philosophiques, parce qu'il y a deux grands courants. On se ramène toujours à ça. Le courant aristotélicien, la priorité de l'expérience externe. Le courant platonicien, néo-platonicien, priorité de l'expérience interne. Et tout le temps, c'est comme ça. Vous retrouvez tout le temps. Alors, c'est intéressant, parce qu'il ne faut pas rejeter l'expérience interne. Alors, quand vous voulez une analyse de l'expérience interne, regardez la phénoménologie. Je la rejette pas, je la mets en place. À la place cette première, je la mets seconde. Oui. Mais elle est intéressante. Toute expérience interne. Augustin, saint Augustin, mais c'est l'expérience du vécu. C'est l'expérience interne. Saint Thomas, l'expérience externe. En premier lieu. Et vous avez comme ça une possibilité de tout de suite saisir les deux grands courants. Alors, dans les deux grands courants, il y a des tas de choses secondaires. Mais c'est important de comprendre qu'est-ce qui est premier. Alors, je dis tout simplement ceci hein, pour nous. L'expérience externe, c'est-à-dire l'intelligence liée à mes sensations. Mon intelligence est au bout de mon doigt quand je touche. Et je dis que c'est là où l'intelligence et dans une avidité particulière de connaître. Parce que l'expérience externe forme la jeunesse. Hein? Les voyages forment la jeunesse. J'ai pas besoin de voyager pour mon vécu. J'ai qu'à m'enfermer en moi. Tandis que le voyage, ah, ça fait voir un nouveau paysage. Vivre à Saint-Jodin, c'est voir un nouveau paysage. Un soleil particulier de la Loire, une lumière particulière, il faut la regarder. Vous habituez à regarder le ciel. C'est pas une distraction. C'est quelque chose qui me rêve, c'est comme ça. Ça m'aide. Quand vous travaillez comme ça, mais regardez de temps en temps le ciel quand même. Hein. C'est reposant. Et puis ça vous permet d'avoir un peu de foulecan. C'est autrement. Alors je sais très bien, on dira, Anne, vous rien regardez, vous fermez toujours les yeux. Oui, fermez toujours les yeux, mais attention, il y a des obstacles. Vous allez tomber dans le puits. Ce qui montre bien que c'est dangereux. L'expérience toujours interne. Il y a un équilibre. Et c'est un équilibre. Voyez, si on voulait chercher l'équilibre psychologique de chacun d'entre nous, on verrait le rapport entre les deux. Alors là, on aurait l'équilibre psychologique. Dans ce qu'il a de tout à fait fondamental. Parce que c'est la base, vous voyez. C'est ce qu'on oublie trop. On oublie trop que l'expérience externe est première. Vous n'avez qu'à comprendre un tout petit peu, hein, le vécu d'un accident et l'accident lui-même. Un accident de voiture. Il y a le vécu. Et puis il y a l'accident lui-même. Il y a le spectateur et le témoin. Le spectateur, ah, je ne veux simplement qu'être spectateur. Je regarde, je ne suis pas témoin. Le témoin, il s'engage. Donc, l'expérience interne et l'expérience externe. Tandis que le spectateur, l'expérience externe. Je me dégage de toute responsabilité. J'ai vu simplement. Je vous dis ça. Voilà ce que j'ai vu. Comme spectateur. Vous voyez, cette distinction, elle est tout le temps présente. voisin brûle. C'est l'heure de matine. Je dois prier, je prie. Introverti. Vous avez les deux exemples. Et vous voyez tout de suite le primat de l'expérience externe et primat de l'expérience interne. La charité fraternelle me permet de tout le temps maintenir le primat de l'expérience externe. L'amour à l'égard de Dieu, introverti. Contemplation, vie apostolique. Contemplation, charité fraternelle, vie commune. Pourquoi on maintient la vie commune? Ah, mais pour que fassiez attention qu'il y a un puits. Pour que vous regardiez. Parce que si vous dites, moi, je suis un contemplatif, je ne vois que Dieu dans la vie. Je ne vois que Dieu. Alors je reste toujours les yeux fermés. Je ne vois que Dieu. Je sors de l'oraison fermant les yeux. Je ne vois pas qu'il y a une porte. Puisque Jésus passe à travers les portes, donc. Alors, c'est ça qu'il faut saisir, c'est que nous commençons par l'expérience externe, parce qu'elle est première. Et si je veux faire une philosophie saine, qui étudie l'homme, je dois l'étudier dans toutes ses dimensions, autant que je peux. Autant qu'il est possible. Et en plus, ça reste une philosophie ouverte, parce que l'avantage de l'expérience externe, c'est qu'elle reste toujours ouverte. L'expérience interne est quand même fermée. Elle a une intériorité plus grande, c'est sûr. C'est pour ça qu'il ne faut jamais l'abandonner. Elle a une intériorité plus grande. Mais au point de vue de la connaissance, au point de vue de la connaissance, elle n'est pas première. Mais si j'avais une philosophie affective et purement affective, je commencerais par l'expérience interne. Quant à l'inspiration, ben, elle est limitée, l'inspiration. Et puis, l'inspiration, elle m'est propre. Donc, je ne peux pas communiquer mon inspiration à un autre. Or, la philosophie est au service de l'homme. Elle doit être communicable. L'inspiration de l'artiste se communique par l'œuvre. C'est vrai. Elle se communique uniquement par l'œuvre. Quelqu'un qui a une grande inspiration et qui n'a jamais fait une œuvre, on lui dit, mais alors quoi? Transmettez, communiquez. La philosophie doit pouvoir se communiquer aux autres pour être au service des autres. Donc, l'inspiration, très bien. Il faut de l'inspiration. Et si vous avez de l'inspiration, tant mieux. Gardez-la. C'est parce que ça permet un renouvellement constant. Mais l'inspiration doit toujours être vérifiée par la réalité. Ce qui existe. Autre manière de regarder, si vous voulez, c'est que l'expérience interne me met en face d'un monde des possibles. Parce que l'imaginaire joue un rôle très grand. Tandis que l'expérience externe, c'est toujours ce qui est. Or, je fais la philosophie de ce qui est, et non pas du possible. Mais ça, nous y reviendrons. Parce que ça, c'est très important. Je ne fais pas la philosophie du futurible. On m'avait invité une fois à Genève. Dites-moi, quelle serait pour vous la philosophie de l'an 2000? J'ai dit, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, je ne suis pas encore à l'an 2000. Je ne suis pas prophète en tant que philosophe. J'étudie ce qui est. C'est l'homme.